Donc, comme vous avez peut-être vu, on aime parfois des titres un peu provocateurs. C'est une réflexion que je voulais faire un peu autour de la question de violence. Parce que je pense qu'on ne peut pas être indifférent à l'ampleur de la violence qu'on voit dans le monde aujourd'hui. C'est quand même incroyable. On voit que partout, et pour toutes sortes de raisons, les gens s'entretuent. Il y a quelques caractéristiques qui sont, selon certains penseurs, nouveaux dans tout ça. Par exemple, les guerres dans le passé, enfin, toute l'histoire humaine a témoigné de violence, hein, c'est évident. Mais les guerres autrefois, c'était des hommes, des soldats qui sont allés se rencontrer sur le champ de bataille. Et c'était plus ou moins acquis que les femmes et les enfants et tout ça, on les laissait tranquilles, n'est-ce pas? Évidemment, s'il y a un côté qui gagnait, peut-être il occupait l'autre pays, dominait, peut-être même il rendait les gens en esclavage. Mais les tuer, les massacrer, ce n'était pas l'habitude dans ces choses-là. Mais maintenant, on assiste à des guerres, enfin, d'une sorte qu'on a vu au Kosovo, en Serbie, où les voisins s'entretuent, où littéralement, les gens dans la même famille s'entretuent. Donc, pour certains psychiatres et certains penseurs, c'est un niveau de violence qui est quand même difficile à expliquer. Même par exemple, les horreurs comme l'Holocauste des Juifs en Allemagne, c'était quand même les Allemands versus les Juifs. C'est-à-dire les Juifs étaient des autres. C'est des êtres humains, bien entendu, c'est pas pour diminuer à la gravité de la chose. Mais c'est quand même un autre phénomène quand sœurs et frères ou mari et femme sont tout, n'est-ce pas? Ce qui se vit en Serbie, qu'il avait un mari serbe et une femme croate, et ils pouvaient être mariés depuis 30 ans, ils avaient des enfants et tout ça, et ils finissent par se tuer, n'est-ce pas, pourquoi pas, dans cette bataille entre les deux ethnies. J'étais très impressionné, par exemple, par le récit d'un journaliste qui il est allé pendant la guerre de Kosovo, je crois. Non, c'était la guerre de Serbie entre les musulmans et les Serbes. Il est allé, enfin, sur le champ pour voir un peu ce qui s'est passé. Il raconte qu'il était dans la cuisine, dans une famille serbe, autour d'une tasse de thé, en train de discuter, de mieux connaître les gens et tout ça. Et que tout d'un coup, il y a une femme qui se lève de la table, elle prend un fusil, elle vise une femme passante, elle le tue. Elle remet le fusil, elle s'assoit à la table, elle prend encore une tasse de thé et dit: ah, c'était une chaîne de musulmanes, elle ne vaut rien, etc. Donc, avec aucun remords apparent. C'est ce sort de phénomène-là qui est difficile à expliquer. Donc, la théorie est devenue populaire depuis un certain nombre d'années. Que l'homme naît tueur, que c'est dans les gènes, qu'il a une base génétique, que l'homme est, pour ainsi dire, programmé, ok, génétiquement, pour tuer. Maintenant, la foi bahaï n'accepte pas cette thèse. Et maintenant, il y a de plus en plus de scientifiques qui contestent cette thèse. Et un des arguments les plus saillants que je connais pour un scientifique, c'est l'argument suivant qui vient de Richard Leakey, un anthropologue. Il dit, imaginons Bon, d'abord, il faut que je m'explique. Il y a un autre élément de la chose que j'ai oublié. Quand je parle, évidemment, de violence, je parle de violence entre les êtres humains. Maintenant, dans le règne animal, il y a bien sûr la violence. Il y a les animaux qui sont au bouffe et tout ça. Mais ça, ce n'est pas la même chose que la guerre qui range les gens de même espèce les uns contre les autres. Il y a quelques exemples de ça dans le monde animal, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est-à-dire, il y a les chasseurs et les proies et tout ça. Et chacun est chasseur d'une certaine espèce et proie d'une autre espèce. Mais les tueries au sein de même espèce, ça ne se connaît pas dans le règne animal. Et ça se comprend parce que si ça se faisait, l'espèce disparaîtrait tout simplement. Alors donc, quand je parle de violence, enfin je précise que ce qui est spécifique aussi chez l'être humain, c'est la guerre, c'est-à-dire les tueries organisées entre les êtres humains, c'est-à-dire les gens de même espèce. Maintenant, l'argument de Leakey était très simple. Il dit, imaginons qu'il peut y avoir une espèce quelconque qui était génétiquement programmée pour s'entretuer. Maintenant, nous savons que la sélection naturelle opère au niveau individuel. Donc, la compétition pour la survie se fait au niveau des individus, ce n'est pas au niveau des groupes. Alors, si vous avez une espèce dont chacun porte un gène qui le prédispose de tuer tout autre membre de l'espèce qui porte le même gène, alors, au bout de quelques générations, vous voyez que cette espèce va disparaître. Parce que les plus forts vont gagner, ils vont tuer les plus faibles, et ça va être la bataille des plus forts, des plus forts, des plus forts. Finalement, il n'y aura plus personne. Donc, si jamais il y avait eu, dit Leakey, une espèce qui était programmée génétiquement pour tuer, cette espèce a longtemps disparu, et cette espèce n'est sûrement pas l'espèce humaine, parce que aucune espèce n'aurait pu survivre à une telle programmation génétique. Une deuxième chose qui témoigne contre cette notion que l'homme n'est tueur, c'est quand même le fait que l'homme témoigne aussi d'une grande possibilité d'altruisme. C'est-à-dire, n'importe quelle philosophie de vie doit certainement prendre au sérieux la violence chez l'être humain. C'est-à-dire, une philosophie ou une psychologie de l'être humain qui ne prend pas au sérieux la capacité de l'homme de commettre des actes horribles n'est pas valable, n'est-ce pas? Parce qu'il y a trop d'horreur pour qu'on puisse simplement, d'un revers de main, dire bon, c'est une petite blip enfin, dans la nature humaine. C'est trop persistant, c'est trop. Mais il faut dire que tout le long, il y a eu aussi l'altruisme, la coopération, la mutualité, la réciprocité. Et sans entrer dans une grande théorie de tout ça, on voit que juste l'existence d'une société aussi complexe que la nôtre témoigne du fait que la plupart des gens sont fiables, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous ne mettrez pas au volant de votre voiture, si vous supposiez que la majorité des autres conducteurs cherchaient à vous tuer, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas possible. La violence dans notre société est perçue comme une exception, comme une chose qui doit être punie, qu'une chose qui n'est pas acceptable. Et donc notre société présume un contrôle général chez l'être humain de la violence. Et notre société est le fruit quand même d'une longue évolution sociale où ce même principe a toujours régné. Parce que la coopération et la mutualité est la base des sociétés, que ce soit des sociétés nationales, tribales ou tout ce que vous voulez. Alors donc voilà le problème. L'unité peut exister au sein d'une unité sociale comme au sein d'une tribu, mais ça peut coexister aussi avec la guerre entre les tribus, n'est-ce pas? On peut avoir la solidarité au sein d'une famille, mais on peut avoir une guerre entre les familles. Donc, la coopération même ou l'unité à un certain niveau social peut même créer des conditions qui donnent la possibilité d'une guerre à plus grande échelle, parce que la solidarité à un certain niveau crée un réservoir de pouvoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire la solidarité d'une tribu, les gens qui s'entraident et tout ça, qui se supportent, eh bien, ils vont être des guerrières vis-à-vis d'autres tribus beaucoup plus efficaces. Toutes ces choses-là, et on peut voir aussi que au moins dans les jours primitifs de chacune des grandes religions, qu'il avait des actes altruistes absolument incroyables. On sait par exemple l'histoire des premiers, les premiers chrétiens qui ont choisi le martyr plutôt que de renoncer à leur foi et tout ça. Il a toutes sortes d'exemples. Moi, un de mes exemples préférés, c'est l'exemple d'un sénateur romain au IIIe siècle qui s'est converti à la foi chrétienne et il a fini par se vendre en esclavage pour libérer de l'esclavage le fils unique d'une veuve qui n'était même pas chrétienne. Ça, c'est de l'altruisme parce que l'altruisme, c'est le sacrifice de soi qui se fait en connaissance de cause, n'est-ce pas? On parle parfois, par exemple, de l'instinct maternel chez des animaux, mais on ne peut pas présumer que l'animal a connaissance des résultats de son geste. Il est programmé, lui, la mère est programmée pour protéger ses petits, mais pas nécessairement en sachant consciemment ce qui va arriver si elle prend ce geste, n'est-ce pas? Tandis que cet homme-là, par exemple, qui se vendait en esclavage, il était sénateur, il avait été sénateur, il savait ce que c'était l'oppression, il était même une partie du système oppressif, il savait ce qu'il attendait, il l'a fait quand même. Alors ça, on ne peut pas expliquer ça par aucune mobile égoïste ou aucune agressivité envers les autres, c'est un geste de sacrifice. Donc, l'être humain, il faut accepter, a la capacité de l'altruisme extrême et aussi de la méchanceté ou la cruauté extrême. Les deux possibilités cohabitent chez l'être humain. Maintenant, une deuxième possibilité serait qu'il a des bons et des méchants. C'est-à-dire que c'est les méchants qui font des méchancetés et les bons qui font des bonnes choses. Et donc, voilà, ça explique, c'est pas que tout le monde est programmé pour être méchant, mais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont la tendance à être méchants. Et ces gens-là qui recherchent le pouvoir sur les autres, qui sont des méchants, un peu comme dans les films Disney, n'est-ce pas, où il y a toujours le monstre, enfin, qui est totalement mauvais et qui fait tout, et tous les restes sont des victimes innocentes des agissements de cette personne. Encore une fois, toutes les grandes religions et tous les grands philosophes ont dit que non, le bien et le mal, c'est un potentiel dans le cœur de chaque individu. Que la vraie bataille entre le bien et le mal se fait à l'intérieur de chaque individu. Que chaque âme individuelle a le potentiel pour ce grand altruisme et a aussi ce potentiel pour la grande cruauté. Donc on ne va pas expliquer, par exemple, le Holocauste en Allemagne en disant ben, les Allemands sont des mauvais gens qui étaient programmés par leur gène de tuer 6 millions de Juifs. C'est-à-dire, le potentiel chez l'être humain de commettre ce que les nazis ont fait, ce potentiel est au sein de chacun de nous. Et dans des conditions appropriées, ça pourrait se montrer. Alors, quelles sont ces conditions? Comment est-ce qu'on évite ça? Ça, c'est évidemment une question à discuter. Alors, Abdu'l-Bahá, dans un de ses écrits, fait le commentaire suivant, que moi je trouve le plus pertinent dans une certaine mesure. Abdu'l-Bahá dit que, en quelque sorte, je ne sais pas exactement, mais quand même le sens est là, que c'est en quelque sorte un témoignage de la subtilité de Dieu, qu'il a pu faire un être tel l'être humain, avec une âme, avec un libre arbitre, en le dotant de la possibilité de choix libre, et ayant le potentiel et pour le plus grand bien et le plus grand mal. C'est-à-dire, pour élaborer un peu l'idée que je pense qu'il est sous-jacent à ce qu'Abdu'l-Bahá dit, on peut imaginer un Dieu ou même un programmeur d'ordinateur qui pourrait programmer pour construire un robot qui ne fait que du bien. Il est programmé pour faire du bien. Il ne peut que de se sacrifier pour les autres. Peu importe ce que vous lui faites, enfin, c'est comme un bon chien, n'est-ce pas, enfin, ou quelque chose. Peu importe ce que vous lui faites, il va faire du bien, il ne va jamais réagir, il ne va jamais se défendre, etc. Okay? Et vous pouvez certainement imaginer le contraire, un robot qui ne fait que du mal, il est que agressif, peu importe si vous êtes gentil ou non avec lui, peu importe, il va vous agresser, il va faire le maximum pour vous tuer, tout ça. Ça, c'est facile à imaginer. Mais comment, supposons qu'on se donnait la tâche de construire un robot qui avait le potentiel du plus grand bien et du plus grand mal, et qui avait en plus le choix à chaque moment entre les deux? Alors, ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la nature humaine. Donc, ça, c'est le point de vue Baha'i sur la nature humaine par rapport à cette question de violence. L'homme est capable de la plus grande cruauté et il est capable de la plus grande altruisme. Ce potentiel du bien, et bien sûr, tout le spectre entre ces extrêmes, ce n'est pas seulement les extrêmes, et ce potentiel du bien et du mal réside dans le cœur de chacun. Et ça dépend. C'est influencé par toutes sortes de choses, nos parents, la société dans laquelle nous vivons, mais finalement, ça dépend surtout des choix valués que font l'être lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'être a toujours la possibilité de choisir de ne pas faire du mal ou de faire du mal. Bien sûr, la question de responsabilité, enfin, c'est pourquoi tous les prophètes et tous les grands philosophes ont dit qu'on n'a pas le droit de juger moralement un autre. C'est seulement Dieu qui peut savoir quelles sont les circonstances atténuantes au geste de quelqu'un. C'est évident qu'une personne qui est née dans une famille abusive, avec un père alcoolique, qui est battu, etc., etc., c'est évident que cette personne va être beaucoup plus enclin à violence envers d'autres qu'une personne née dans une bonne famille et tout ça. Donc, ce n'est pas une question de dire qu'il n'y a pas des circonstances qui sont influentes sur le choix de la personne. Mais le choix lui-même revient quand même à la personne. Même l'enfant abusé et tout ça, atrocement abusé et tout ça, il peut avoir une beaucoup plus grande difficulté à contrôler sa violence, mais il a quand même le choix. Le choix est quand même là. Et comme j'ai dit, nous ne pouvons pas juger le caractère moral de la personne. Il se peut très bien que si lui, il devient violent, mais tout en essayant de se contrôler, qu'il fait un plus grand effort moral que moi, qui ne me laisse pas aller à la violence, mais j'ai jamais eu une tentation sérieuse de le faire. Donc c'est pourquoi seul Dieu peut juger du caractère inné d'une personne. Dieu est le seul juge possible de ces questions. Mais nous pouvons juger le caractère des actes, non le caractère des personnes, mais nous pouvons dire que tel ou tel acte est répréhensible, que tel ou tel acte est antisocial. Et nous devons, les gens doivent être tenus responsables de leurs actes, sans qu'on juge la valeur morale de ces personnes. J'ai vu une autre chose une fois qui m'a beaucoup touché. C'était vraiment une des choses les plus touchantes que j'ai jamais vues de ma vie. Je deviens même ému quand j'en parle. Je vais essayer de vous éviter ça. C'était, vous savez que moi je viens du sud des États-Unis, et c'est là où on a eu beaucoup de problèmes raciaux, beaucoup de préjugés raciaux, surtout entre les Noirs et les Blancs. Et cet homme, c'était un jeune sudiste, un Blanc, qui un soir, avec deux autres de ses copains, ils ont pris simplement au hasard un Noir, un jeune Noir, ils l'ont tué, ils l'ont massacré d'une façon cruelle et tout ça. Ils l'ont torturé, etc. Et finalement, ils l'ont tué. Juste pour le plaisir de le faire, enfin, comme ça. Ils étaient attrapés, ils étaient jugés, ils étaient condamnés. Je pense que deux d'entre eux étaient exécutés. Et le troisième avait la prison à vie. Je pense que sa part dans la chose était moindre, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il avait la prison à vie. Et l'entrevue que j'avais vue à la télévision, c'était une entrevue avec ce type, peut-être 20 ans après ces faits. Alors, cet homme a été complètement transformé. Complètement transformé. Il a fini par établir une relation avec la mère noire, donc, de ce garçon noir qu'il avait massacré ou pour lequel il avait participé. Il avait finalement dit à cette dame qu'il allait devenir le fils qu'il lui avait enlevé. Et ils ont établi, elle dit, je t'accepte comme mon fils. Et donc elle venait presque tous les jours aux prisons, le soigner et tout ça. Ils sont devenus des amis, enfin vraiment un lien de parenté. Et écoutez cet homme parler, on peut dire que c'est un homme moralement supérieur. À un moment donné, l'entrevueur avait dit, « Mais comment est-ce qu'un être humain peut faire ce que tu as fait ?» Et sa réponse, il a dit, « Quand j'ai fait ça, je n'étais pas un être humain. Mais je suis devenu un être humain. » Alors ça montre encore une fois ce potentiel du bien qui est dans chacun de nous. Ce que la foi Baha'i cherche à faire, c'est d'amener les conditions dans le monde qui favorisent l'éclosion de ce potentiel de bien qui est dans chacun. Je pense que je vais laisser les choses là. Et on peut en discuter dans tous les sens que vous voulez.